L'ennemi intérieur. Introduction. J'ai commencé à entendre la voix dans ma tête il y a environ 8 ans, alors que j'habitais seule depuis peu, après m'être séparée de mon compagnon de longue date. Je n'avais jamais pris conscience de sa présence auparavant. Je crois qu'elle était couverte par les paroles constamment valorisantes et bienveillantes de l'homme avec qui je vivais. Mais désormais, à chacune de mes maladresses, la voix se déchaînait, elle tonnait comme si elle était toujours à l'affût du moindre prétexte pour me condamner irrévocablement, pour m'accabler d'injures. Ce n'est pas possible d'être aussi conne. Elle ne pouvait jamais approuver rien de ce que je faisais. Aujourd'hui encore, quand par exemple je me plonge dans l'écriture pour une longue période, en délaissant les piles de livres en attente de lecture, ou les films et les séries à voir, elle persifle. Ce serait peut-être bien de te tenir au courant et de te nourrir des travaux des autres, comme le font toutes les autrices autour de toi, non? Tu te crois plus maligne que tout le monde? Tu penses que tu as la science infuse? Tu vas finir par être complètement larguée, ma pauvre. Et quand je m'installe dans mon fauteuil pour disparaître de longues heures derrière les piles en question, la voix s'impatiente. C'est bien joli de lire à l'infini, mais il faudrait peut-être penser à produire quelque chose, toi aussi. Ce nouveau livre ne va pas s'écrire tout seul. Dans mes échanges de messages avec l'homme que j'aime, si je donne libre cours à mes sentiments, elle me houspille. Mais arrête! Tu vas l'effrayer, tu vas le faire fuir. Et si je me réfrène, elle me reproche ma froideur. Comment veux-tu qu'il devine combien tu tiens à lui si tu te censures? Il n'est pas dans ta tête. Il ne faudra pas t'étonner s'il s'en va. Lorsque, alors que je dîne avec une ou un ami au restaurant, j'insiste pour payer l'addition, la voix s'agace. Tes réserves vont vite fondre si tu continues à flamber comme ça. Et puis tu ne vois pas que tu l'as le mais mal à l'aise? Tu ne vois pas que tu écrases tout le monde avec ta générosité? Et bien sûr, si je partage l'addition ou si je me laisse inviter, elle me traite de pingre et m'accuse de mettre mes amis sur la paille. Ces derniers temps, la voix a encore gagné en amplitude. J'ai quitté le journal où je travaillais et, pour le moment du moins, je ne suis pas obligée de chercher un autre travail salarié. Être autrice à temps plein, un rêve que je nourrissais depuis longtemps, sans oser croire qu'il pourrait se réaliser. Pendant des années, comme presque tout le monde, j'ai été en manque de sommeil, j'ai éteint mon réveil le matin en gémissant et en pestant, et j'ai couru désespérément après le temps libre. Je savoure donc ma chance, même si, par moments, le travail en équipe me manque, ce que je n'avais pas prévu. Mais je m'aperçois aussi de toutes les interrogations existentielles que je m'épargnais à l'époque où je m'absorbais dans la réécriture d'un article après l'autre, c'était ma fonction, chef d'édition, où je me préoccupais de savoir si nous n'étions pas en retard pour le bouclage du numéro du mois, où je plaisantais avec mes collègues, où je me passionnais pour les intrigues de bureau. Lorsque l'élément « boulot » a disparu de ma vie, libérant une place béante, une armée de démons surgit de nulle part, s'est parachutée sur le parquet en chaîne de mon studio et s'est mise à danser la sarabande autour de moi en grinçant des dents. Le fait même que je me retrouve légèrement ahuri, là où j'avais toujours désiré être, semble exciter particulièrement mes nouveaux colocataires à pattes fourchues. Rien de tel, en effet, que de se voir offrir le rêve de sa vie sur un plateau d'argent pour rameuter tout ce qui existe dans le conscient et dans l'inconscient comme scrupules, culpabilité, pourquoi moi et pas les autres, doute, la vie est-elle réellement faite pour qu'on soit heureuse, inhibition, cette chose, le bonheur, comment cela se pratique-t-elle au juste, sentiment d'imposture, je n'ai pas mérité tout cela, c'est un grand malentendu, tentation de l'auto-sabotage, tiens, et si j'arrêtais le sport? Tiens, et si je regardais les 14 saisons de cette série, vite fait, avant de me remettre à travailler à mon livre? Peur de toutes sortes. C'est trop beau pour durer, il va forcément m'arriver quelque chose d'horrible. J'ai déjà reçu beaucoup, il faut s'attendre à ce que cela se termine bientôt. La vie ne peut pas être aussi généreuse. Il s'y ajoute la conscience aiguë de ma situation privilégiée et l'exaspération que me cause mon incapacité à en profiter pleinement. Quelle nullité et quelle indécence de s'inventer des problèmes dans des conditions de vie aussi confortables. Non seulement je culpabilise, mais je culpabilise de culpabiliser. Ces jours-ci, j'ai peut-être l'air de vaquer à mes occupations aussi tranquillement que d'habitude. Mais en réalité, je suis engagée dans un pugilat sans merci avec mes démons sur le sol de mon appartement, hors d'haleine, en sueur et couverte de poussière. Et au fond, c'est très bien ainsi. Il fallait bien que j'identifie et que j'affronte un jour la voix dans ma tête, au lieu de m'en remettre éternellement à mon compagnon pour m'en protéger. De même, c'est une grande chance, après 16 ans de salariat, de pouvoir se retrouver face à soi-même, d'avoir l'occasion de réapprendre à être libre, si difficile que ce soit. Y compris si cela implique d'échanger quelques nions avec des adversaires immatériels et ricanants. Le réglage par défaut de nos esprits. Mon ami S, âgé d'une soixantaine d'années, a un quotidien très dur, harassant, marqué par le manque d'argent et par la contrainte de déplacements incessants. Elle rêvait depuis longtemps de trouver, grâce aux bouches à oreilles, un appartement à la campagne ou au bord de la mer, qu'elle pourrait louer pour un prix modique et où elle pourrait se réfugier pour souffler et échapper un peu au béton de sa banlieue. Il y a quelques mois, ce lieu lui est tombé du ciel. Une connaissance lui a proposé un studio à louer à l'année au bord de la Méditerranée, à un quart d'heure à pied de la plage. S a sauté sur l'occasion. Elle a accepté l'offre sans même avoir visité l'endroit. En s'y rendant pour la première fois, elle a découvert un lieu encore plus beau que tout ce dont elle avait rêvé. Quand le bus est arrivé à destination, j'ai eu l'impression d'arriver chez moi, me raconte-t-elle. Et j'ai tout de suite su que je voulais finir ma vie là. Pourtant, lorsque je la revois à Paris quelques semaines plus tard, cette femme que j'ai toujours connue splendide et rayonnante a une mine effrayante, de grandes cernes grises sous les yeux. Elle m'explique qu'elle traverse une crise personnelle très violente, que, au cours des jours précédents, il lui est arrivé deux fois de tomber dans la rue et de finir aux urgences. Cette crise, elle l'identifie comme la peur du bonheur. Pour elle aussi, la réalisation de son rêve a signifié le réveil de tous les démons. Elle me décrit la sensation d'une main qui plonge dans ses entrailles pour ramener au jour ses peurs les plus profondes. Non seulement des terreurs familières sont réactivées, la peur d'être à la rue, ce qui lui est déjà arrivé par le passé, la peur de ne pas avoir à manger, mais elle est aussi persuadée qu'elle va devoir payer ce bonheur d'un prix terrible et qu'il va arriver quelque chose à ses enfants. « Ce qui est en question, ce dont je doute, me dit-elle, c'est mon droit à la vie, à une vie qui ne soit pas au rabais, qui ne soit pas sous le joug. » Dans le cas de S, comme dans le mien, tout un fatras de pensées destructrices s'interpose entre nous et la possibilité de vivre notre nouvelle situation avec toute la simplicité, l'inventivité et l'allégresse qu'elle mériterait. Ce fatras représente une sorte de précipité chimique, de concentré pur de nos empêchements intimes. Puisque j'y suis confrontée, je voudrais l'analyser et ainsi tenter de faire œuvre utile, à la fois pour moi et pour d'autres. Je voudrais consacrer un livre à l'ennemi intérieur, à notre habitude de nous disqualifier, de nous attaquer nous-mêmes sans relâche, à notre conviction que nos manières spontanées d'exister sont toujours fautives, que nous ne méritons rien de bon. Deux sérieux indices me laissent penser qu'un grand nombre d'entre nous sont aux prises avec la voix persécutrice. Dans la fiction sonore de Victoire Thuayon, Mental FM, captation de la cacophonie qui retentissait entre les oreilles d'une jeune femme, en 2018, une séquence s'intitulait « Jugement FM ». Tu n'as jamais rien fait de mal dans ta vie. Rien de bien non plus, remarque. Tu devrais travailler plus. Si tu avais fait de meilleures études, tu n'en serais pas là. Enlève cette robe, on dirait un saucisson. Tu ouvres trop ta gueule, là, redescends un peu. T'es conne, t'es conne, t'es conne, t'es complètement conne.